Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Arpentaire, une émission du Zoom Écologie, tous les deuxièmes jeudis du mois, sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
Bonjour à toutes et à tous, il est 20h33, nous sommes en direct sur l'émission Zoom Écologie, ici le trio Arpentaire. Salut Louis et Lisa. Aujourd'hui, nous allons parler des stratégies de lutte antifasciste depuis le camp écologiste, avec nos deux invités, Marcel et Ambre, des Soulèvements de la Terre. Salut à toutes les deux. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je reprends vos mots depuis les Soulèvements de la Terre. Les Soulèvements de la Terre, c'est la tentative de construire un réseau de lutte locale tout en impulsant un mouvement de résistance et de redistribution foncière à plus large échelle. Avant de commencer l'interview, j'aimerais faire une brève tentative de description et de cadrage général des liens entre la fascisation du Nord global capitaliste et impérialiste et la catastrophe écologique. La montée de l'extrême droite ne se limite pas aux élections aujourd'hui, comme nous l'avons vu avec l'élection de Trump aux États-Unis, de Javier Milei en Argentine, de Viktor Orban en Hongrie, de Jair Bolsonaro au Brésil, ou de l'ancrage durable des courants autoritaires en Europe avec l'AFD en Allemagne, le parti Vox en Espagne, Fratelli d'Italia avec Meloni au pouvoir en Italie, ou encore le Rassemblement National en France. Non, ce que nous vivons, c'est une restructuration du capitalisme dans une direction de plus en plus autoritaire et fascisante, si ce n'est déjà fasciste, portée par des intérêts fossiles et industriels qui voient dans la catastrophe écologique le besoin de renforcer sa mainmise sur la jambe droite de l'État, la jambe répressive, pour maintenir une domination de classe, de race et de genre. Comme l'historien marxiste de Guyana Walter Rodney avait déjà bien résumé en 1972 dans son ouvrage « How Europe Underdeveloped Africa », ce qu'on observe, c'est « fascism at home and colonialism abroad », le fascisme à l'intérieur et le colonialisme à l'étranger. Mais ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est que la catastrophe écologique est bien là. Dès lors, le fascisme ne reste pas indifférent aux questions écologiques, il compose aussi avec pour faire avancer un programme raciste et réactionnaire. Sur le plan climatique, l'extrême droite incarne ce que l'on appelle aujourd'hui un carbofascisme ou fascisme fossile, pour reprendre l'expression d'Andreas Malm. Le mot fascisme fossile ou carbofascisme désigne une convergence d'intérêts dans la défense des énergies fossiles entre l'industrie des hydrocarbures qui cherche à préserver ses intérêts économiques directs et l'extrême droite qui défend des modes de vie impériaux qui reposent particulièrement sur l'exploitation des ressources et des populations non occidentales. Parallèlement à ce phénomène de carbofascisme, on a une résurgence de ce qu'on appelle, ou plutôt une émergence de l'écofascisme depuis les années 80 dans les doctrines et dans les pratiques depuis une dizaine d'années. L'idée, c'est que la crise écologique pour les écofascistes ne doit pas être combattue par une transformation sociale et écologique, mais par des politiques autoritaires, racistes et xénophobes. Une frange minoritaire de l'extrême droite s'intéresse donc à l'écologie pour justifier le contrôle des populations, la fermeture des frontières et même des projets de décroissance sélective imposés aux plus précaires. Mais il y a une autre histoire de l'écologie, celle des résistances et du front de lutte éco-socialiste et antifasciste. Et c'est de ces résistances que nous souhaitons parler aujourd'hui avec nos deux invités. Depuis les luttes des peuples autochtones contre le colonialisme extractiviste, jusqu'aux militants écologistes antifascistes d'aujourd'hui en France, l'écologie a toujours été un champ de bataille contre l'autoritarisme. En France, les mobilisations contre le nucléaire dans les années 70, la lutte depuis les ZAD, face à la militarisation des territoires, ou encore les combats actuels contre l'accaparement des terres et de l'eau, montre que le combat écologiste est inséparable de la lutte antifasciste. Aujourd'hui, des campagnes comme Désarmer Bolloré illustrent concrètement ce lien entre écologie et antifascisme. Dénoncer les mécanismes d'exploitation, affronter les oligarchies fossiles et refuser la mainmise autoritaire sur les ressources et les corps. Voilà l'objet d'une écologie proprement antifasciste. Alors dans cette émission, nous allons explorer ces liens, ces luttes et ces perspectives avec nos deux invités. Donc restez avec nous, on plonge directement dans le vif du sujet. Alors ma première question, après cette introduction un peu globale, générale, ce serait juste que vous vous présentiez un petit peu les Soulèvements de la Terre Et puis, petit à petit, on va avancer ensemble.
Les soulèvements de la terre, c'est un mouvement et non pas un collectif ou une association, comme on entend parfois, mais bel et bien un mouvement constitué d'un vaste réseau, un réseau de réseaux même. C'est un mouvement qui est né en 2021 et qui est l'héritier de la lutte dans la ZAD contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et c'est un mouvement qui se fonde d'abord et surtout autour d'une stratégie qui est celle, enfin une stratégie, un pari, hein, qui est celui de la composition, s'allier avec différentes organisations, syndicats, réseaux, luttes locales, etc. et ne pas rester depuis un seul point de vue dénonciation, mais les multiplier pour renforcer et faire front. Et du coup, concrètement, c'est un mouvement qui est composé de paysans, de paysannes, de groupes de l'autonomie, de jeunes du mouvement climat et des mouvements écologistes fin des années 2015, et puis de luttes locales, de personnes riveraines, d'associations riveraines ancrées dans un territoire en lutte contre un projet destructeur parmi tant d'autres. Du point de vue un peu des fondements, hein, pourquoi les soulèvements de la terre? La terre, ça a été choisi parce que c'est une question qui est à la croisée des chemins entre les questions coloniales, sociales et écologiques. Et c'est ce pilier-là, hein, qui fait un peu le fondamental des soulèvements. Et du coup, hein, pour finir, on peut dire que c'est un mouvement qui lutte contre l'accaparement des terres et de l'eau aussi, et l'artificialisation des sols qui est à l'œuvre dans tous les projets écocidaires, destructeurs, avec trois modalités d'action directe: le blocage, l'occupation et le désarmement.
Super, on vous a connu les soulèvements de la terre, notamment avec Sainte-Soline, qui avait une répercussion nationale, internationale, et qui avait fait les gros titres avec une forte répression des militants, on s'en souvient. Depuis juin dernier, il y a eu une forte percée du Rassemblement national, qui est la finitude, enfin qui va continuer peut-être par aboutir de ce processus de fascisation qu'on observe en France. Et donc, on a l'impression que dans le mouvement social et écologiste, il y a un petit peu un tournant, une résurgence de l'antifascisme, ou du moins des liens avec le courant antifasciste. Comment est-ce que depuis les soulèvements de la terre, vous avez intégré cette question antifasciste, qui était déjà là depuis le début, mais peut-être qui est encore plus présente maintenant?
Il y avait déjà des liens qui étaient faits, hein, du coup, avec des groupes antifascistes, mais je pense que là où ça s'est vraiment matérialisé, c'est par la création de cette campagne des armées Bolloré, qui avait vraiment pour volonté de lier, de tisser une alliance entre un front écologiste et un front antifasciste. En tout cas, c'est ça, les deux piliers. On va abondamment revenir sur le sujet.
Ouais, carrément. Mais comment, du coup, un peu plus concrètement, vous avez pris à bras le corps ce sujet depuis juin? Comment vous vous êtes organisé? Est-ce que vous vous êtes formé? Comment est-ce que vous en discutez dans vos groupes locaux respectifs? Ou est-ce que c'est un sujet dont vous parlez en fait depuis le début?
Donc, d'une perspective plutôt nationale, enfin à haute échelle, la suite un peu des idées, c'est qu'il y a eu cette percée du Rassemblement national aux dernières élections européennes, qui a été un peu une sorte d'onde de choc, et la campagne est venue s'annoncer après ça. Donc, je pense que ça a suscité une adhésion massive déjà dans l'opinion, et puis aussi dans la tête des militants, des militantes. Et concrètement, ça s'est matérialisé par des discussions, des tables rondes pendant le gros événement de l'été, qui était le village de l'eau à Mel contre les mégabassines dans les Deux-Sèvres. Là, il y a eu des conférences, des discussions autour spécifiquement de la question de l'articulation entre l'écologisme et l'antifascisme, autour de milliardaires comme Vincent Bolloré. Les premiers espaces de discussion collectifs ouverts ont eu lieu à ce moment-là. Et après, il y a eu les premiers jalons de la campagne qui ont été posés. Donc, il y a eu une première mobilisation dans le Finistère, c'était le 5 octobre, qui s'appelle Levons les voiles, et qui avait pour but de cibler une île dont Bolloré a fait l'acquisition dans l'archipel des Glénans dans le Finistère Sud. Donc en fait, les premiers jalons de cette campagne, les premiers espaces de discussion, les premiers réseaux se sont créés par l'action, par la volonté de discuter et de faire des choses ensemble. Et pas d'abord par des espaces de formation, etc. Et puis ensuite, il y a eu les autres jalons de la campagne qui sont arrivés, mais je pense qu'on en reparlera ensuite.
Et peut-être pour compléter, il y a eu également tout un processus d'enquête qui s'est mis en place, qui s'est à la fois matérialisé par le fait de tisser des liens avec les nombreuses personnes qui avaient déjà travaillé sur Bolloré, parce qu'on ne partait pas de nulle part. Il y avait déjà tout un travail assez massif qui avait été produit sur Vincent Bolloré, de nombreux livres, documentaires, personnes qui avaient notamment vécu la purge au sein des rédactions de Bolloré, avec qui on a pu rentrer en contact et qui nous ont partagé les nombreuses informations qu'ils avaient, mais également le fait de commencer à faire de l'enquête de notre côté, puisque l'enquête avait aussi également ce besoin d'être au service de l'action pour savoir concrètement comment est-ce qu'on peut attaquer, comment est-ce qu'on peut désarmer Bolloré, quelles sont les infrastructures matérielles qu'on peut viser. Et ben, pour ce faire, il fallait se mettre à enquêter. Et ça a pris la forme notamment d'une cartographie qui est collaborative, c'est-à-dire que n'importe qui peut aller sur le site donc, qui s'appelle Gogo Carto, taper Bolloré, et il y a une magnifique carte qui s'affiche avec toute une pluralité de différents sites de Bolloré. Et c'est grâce à l'enquête et aux nombreuses contributions des personnes qu'on a pu justement un peu visualiser où est-ce qu'il était possible d'attaquer Bolloré.
Ça marche. On reviendra sur pourquoi est-ce que vous avez ciblé Bolloré, en quoi ce monsieur est un criminel. Peut-être depuis les soulèvements de la Terre, une question assez large, vous pouvez y répondre en tant que soulèvement, en tant que militante, mais quel lien vous faites entre capitalisme fossile, fascisme et écologie? Comment est-ce que vous voyez cette articulation-là?
Alors, pour répondre peut-être d'abord à l'articulation entre écologisme et fascisme, parce que j'ai l'impression que ça a été déjà dit pas mal en introduction, mais on peut déjà commencer par rappeler que du point de vue idéologique, le fascisme et l'écologisme sont radicalement incompatibles, et que si on prend par exemple la définition de l'écologie de Malcolm Ferdinand, qui est un penseur décolonial, l'écologie c'est la cessation de l'exploitation du vivant, quel qu'il soit, donc humain, non humain. Le fascisme, d'un autre côté, c'est un projet politique fondamentalement suprémaciste, donc qui vient défendre l'idée d'une hiérarchie naturelle dans la société, qui va donner lieu à des discours discriminatoires de structures de hiérarchie, de classe, de race, de genre, comme ça a été dit. Et donc un tel projet, en fait, justifie, légitime toute une forme d'exploitation, exploitation d'êtres humains dans des plantations de type néocolonial comme Bolloré en Afrique, par exemple, ou la mise au pas d'animaux une agriculture intensive, tout ce processus d'exploitation-là fait partie intégrante du fascisme. Et donc, cette exploitation génère des profits qui vont alimenter le système capitaliste qui, de son côté, cherche à s'étendre et à générer toujours plus de profits. Donc, il y a cette intrication très forte entre un fascisme qui, par essence, va générer une hiérarchie et des exploitations, qui vont générer du profit, qui vont alimenter un système économique qui va continuer à alimenter tout ça et donc à s'étendre de plus en plus. Et l'écologisme est fondamentalement incompatible avec ces intrications-là.
Et pourtant, il se trouve qu'une partie du camp fasciste commence à s'intéresser à la question environnementale. Ça reste très minoritaire, mais c'est ce qu'on appelle les écofascismes. Et c'est le sujet de nos deux dernières émissions. Et donc, comment est-ce que le mouvement environnemental, écologiste, doit continuer un peu de se parer d'un antifascisme qui n'est pas assez au cœur, parfois, de son propos? On pense à des organisations environnementales un peu plus mainstream, peut-être moins militantes que les soulèvements de la Terre. Est-ce que vous partagez un peu ce constat qu'il manque d'antifascisme au sein du mouvement écologiste en France et dans le monde aussi? très brièvement, hein, c'est juste histoire de finir sur cette première partie introductive.
Oui, c'est sûr que, quand on prend la question écologique dans un sens étriqué, dans un sens restreint, qui justement ne prend pas en compte les questions coloniales, les questions sociales, ça peut mener à la fois à des choses radicalement éloignées de la définition qu'a donnée Ambre juste avant, ou à des visions qui trop restreintes et qui du coup vont... oublier, ne pas prendre en compte, ignorer toute une partie qui est réellement nécessaire à prendre en compte dans l'écologie. Et justement, le fait, par exemple, de prendre en compte la question coloniale, la question de Bolloré, on va y revenir, mais permet notamment de visibiliser ça, que ce soit à travers ces industries, puisqu'il, comme tu le disais, hein, il a de nombreuses plantations, que ce soit d'EVA ou de palmeraie, enfin d'huile de palme. Mais sa mainmise sur de nombreuses rédactions, de nombreuses chaînes de télé, de radio, etc., il prône également un discours éminemment islamophobe, raciste, etc.
Carrément. Donc l'écologie décoloniale, c'est une forme de réponse directe au fascisme fossile et c'est un combat qui doit être poursuivi et mené et qui doit gagner de l'ampleur au sein de la gauche plus généralement, je pense. Je pense qu'on peut en finir pour cette partie très introductive qui était assez générale. On va revenir un peu plus concrètement sur la campagne des armées Bolloré après une courte petite pause de musique histoire de se rafraîchir. Et puis on écoute ce Between the Buttons de French 79.
Et on est de retour sur le Zoom Écologie sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Alors on est avec deux invités des Soulèvements de la Terre qui sont venus nous parler d'écologie et de fascisme à travers notamment la campagne des Amants Bolloré. Pendant 5 jours, du 29 janvier au 2 février, une série d'actions s'est tenue à travers la France pour dénoncer l'influence du groupe Bolloré à l'initiative d'une large coalition de collectifs écologistes, militants et syndicaux, et notamment des soulèvements de la Terre. Cette campagne, elle s'attaque à l'empire néocolonial et autoritaire de Vincent Bolloré. Alors, on parle accaparement des terres agricoles, contrôle des médias, de l'édition, mainmise sur la recherche publique, atteinte aux droits humains. Pour vous, Vincent Bolloré, c'est pas seulement un milliardaire aux multiples casquettes, mais c'est aussi le symbole d'un système qui renforce les logiques capitalistes prédatrices. Et ces mobilisations, elles s'inscrivent aussi dans un tournant stratégique dont on a parlé tout à l'heure, depuis la poussée de l'extrême droite aux législatives de l'été 2024. Plusieurs collectifs écologistes ont renforcé leur engagement contre les dynamiques réactionnaires. Et Bolloré, par ses liens avec ses milieux et son influence médiatique, est devenu une cible prioritaire. Alors, notre première question, c'est pourquoi cibler Bolloré ? Voilà, bah peut-être on peut commencer par ça et puis on verra plus précisément par la suite.
Eh ben, je pense que c'est ce qui est important de comprendre, c'est que Bolloré, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'appliquer, il est en train de mettre en pratique ce qui a été théorisé par l'extrême droite il y a quelques dizaines d'années, c'est-à-dire la conquête de l'hégémonie culturelle. Pour ce faire, il a une méthode bien huilée qu'on a vu se répéter à de nombreuses reprises, que ce soit à Canal+, que ce soit au JDD, c'est-à-dire le fait de s'emparer d'un média, de ensuite mettre au placard les journalistes qui le dérangent, comme par exemple ça a été le cas de Jean-Baptiste Rivoire, qui a été mis au placard pendant un temps avant ensuite de partir et puis d'être condamné là, à payer plus de 150 000 euros à Bolloré parce qu'il parlait. Et voilà, cette méthode, elle consiste à vraiment faire une purge au sein des médias pour ensuite remplacer les équipes des rédactions par soit des personnes qui financièrement ne peuvent pas se permettre de partir de trouver un autre travail ou qui sont juste au pas. Voilà ce qu'il est en train de faire avec tout le conglomérat médiatique qu'il a accumulé et sur lequel on reviendra après, c'est vraiment la conquête des imaginaires et la fabrique du consentement au pire. Plus concrètement, on a vu que le RN est passé tout près de gagner les élections et de prendre le pouvoir. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ça, c'est en partie son œuvre. On peut penser notamment au fait que juste avant d'annoncer le ralliement de la droite à l'extrême droite, Ciotti, qui il est allé voir, c'est Vincent Bolloré, pour orchestrer d'ailleurs toute une campagne de communication autour de ça. Ou alors, on peut penser aussi au coup de fil d'Hanouna en plein plateau pour proposer l'alliance des extrêmes droites, pour proposer d'appeler Jordan Bardella. Ou encore à la fake news dans le JDD, juste avant le temps pendant lequel il ne peut plus y avoir de discours médiatique avant les élections à propos de la loi immigration. Voilà, à notre sens, le groupe Bolloré, c'est vraiment la cheville ouvrière de l'alliance objective entre le bloc libéral et le bloc néofasciste. Et à vrai dire, à chaque fois, l'accession au pouvoir par l'extrême droite, elle s'est toujours faite à travers le bloc libéral. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ce que Bolloré est en train de faire en France, en fait, c'est une méthode de nouveau qu'il a déjà expérimentée et qu'il a déjà mis en place lors de plusieurs scrutins présidentiels en Afrique. Par exemple, on peut penser notamment au Togo et à la Guinée, où le groupe Bolloré, à travers Havas, qui appartient à Bolloré, a pris en charge une partie des prestations de communication, et notamment qui a pris en charge, et là ça va nous rappeler quelque chose, une partie du financement d'un livre pour Alpha Condé, réalisé par le biographe officiel de la famille Bolloré. Et voilà, pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Juste après la prise de pouvoir par Alpha Condé, il y a eu, le nouveau président guinéen a résilié la concession du port de Conakry et ensuite l'a attribué à Vincent Bolloré. Voilà, quelle coïncidence. Trois jours après, sans, bien évidemment, sans aucun appel d'offres, comme ça a été le cas pour plusieurs de ces concessions portuaires. Voilà, en fait, ce qu'on peut... Et par ailleurs, je pense que c'est important de rappeler que Vincent Bolloré a plaidé coupable pour des faits de corruption. Mais bon, la justice ne s'est pas arrêtée là et a proposé de nouveau. Donc il y a un procès à venir sur ces affaires de corruption. Mais en tout cas, malheureusement, ce qu'on peut voir, c'est que cette méthode, elle fait tristement écho au plan de communication, notamment pharaonesque, qu'on a vu là pour le livre de Bardella, qui a été tiré à plus de 150 000 exemplaires, orchestré par la filiale de Vivendi et avec bien évidemment la distribution qui est opérée par les points relais qui eux aussi appartiennent à Bolloré. Et voilà, un peu la conclusion, c'est Bolloré a fait certaines élections en Afrique de l'Ouest et là actuellement il est en train d'essayer de le faire en France.
Là, on a parlé beaucoup de la branche de communication des entreprises Bolloré, qui se sont étendues plutôt récemment, j'ai l'impression. Mais à l'origine, Bolloré, il a plutôt un empire industriel et agricole. Est-ce qu'on peut parler un peu, voilà, en amont de cette espèce d'engagement médiatique pour faire avancer un plan politique, c'est qui Bolloré, en fait ?
Bolloré, c'est un Breton. Ça nous emmerde. Bolloré, c'est un Breton qui a commencé par reprendre cette petite entreprise qu'on connaît bien, de papier à tabac, hein, et papier OCB. Et j'ai envie de dire qu'il a fonctionné un peu comme un phagocyte, quoi. C'est-à-dire qu'il a, c'est une sorte de petite cellule qui mange des industries, qui rachète des médias, qui rachète des entreprises, qui grossit, qui revend, qui rachète, etc. C'est un peu comme ça qu'il fonctionne. Donc effectivement, la base de son empire, elle est industrielle, hein. Ça, c'était dans les années 80. Et ensuite, il a construit sa richesse avec des formes d'exploitation très diverses dans le continent africain. En Afrique, il a plutôt développé la partie transport et logistique. Donc, il a mis la main sur un certain nombre de ports qui sont des zones centrales dans le contrôle de la marchandise et des transports dans le pays, tout simplement, enfin, dans plusieurs pays d'Afrique et dans le continent africain. Et donc, ça lui a permis d'arriver à une situation de quasi-monopole, en fait, en Afrique francophone, puisque mettre la main sur un port, c'est maîtriser les flux, c'est mettre la main sur des grandes infrastructures et mettre la main sur la quantité de marchandises, le type de marchandises. Et donc, in fine, c'est gérer la production, le transport, la vente, la fabrication. Ça lui a permis de s'enrichir énormément. Et c'est cet argent qui est quand même construit sur un pillage colonial, quoi, qu'il a réinvesti dans l'acquisition, fusion-acquisition de médias en France. Voilà. Donc ça, c'est un peu la base phagocyte.
Et pour compléter sur l'aspect agriculture, ça, c'est apparu notamment à travers sa participation au groupe Rivo, le groupe Rivo qui est vraiment un groupe colonial, quoi. Le groupe Rivo, la partie actuelle qui reste un peu de ça, c'est notamment des plantations de palmiers à huile et des plantations d'EVA en Afrique et en Asie. Voilà.
OK. Là, on a un peu parlé un peu de l'historique de l'entreprise Bolloré. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de quelques impacts concrets de ces activités, du coup, que ce soit en France ou sur le continent africain ?
Ouais, il y a quelque chose, je pense, qui mérite un peu une mise en lumière. Alors, on parle beaucoup de Bolloré, les médias, Europe 1, CNews, Canal, les chroniqueurs, les influenceurs, les intervenants d'extrême droite, dont on nous farcit les oreilles. Et je pense qu'on peut plus en entendre parler, quoi, les Pascal Praud, Elisabeth Lévy et compagnie. Mais donc ça a un impact très concret sur les imaginaires, sur le discours, sur l'intériorisation d'un discours raciste, colonial, sexiste par par plein de gens qui, a priori, voilà, sont un peu lambda. Mais ce qu'on voudrait vraiment mettre en lumière, et ça revient aussi à nos préoccupations à nous depuis les soulèvements de la terre, la question de l'accaparement des terres et puis la question voilà, de la terre, tout simplement, du sol, c'est que en Afrique et au Cameroun particulièrement, où Bolloré s'étend à travers donc, cette entreprise de la Socfin. Je ne vais pas rentrer dans les montages, mais en gros, voilà, donc c'est une entreprise qui lui permet d'avoir des plantations de palmeraies et d'EVA. Et ces plantations, hein, c'est quoi concrètement ? Donc c'est de l'expropriation de paysans, paysannes, agriculturistes de la région. Donc là, je vais parler essentiellement du Cameroun. Donc expropriation de paysans, paysannes, de leurs terres. Donc perte de leur maîtrise d'une agriculture vivrière, comme c'était... enfin voilà, c'était comment dire, c'est ça qui se passait dans les entreprises coloniales, hein, c'est arraché, exproprié, et ensuite c'est la mise au pas des corps et des individus dans un système qui relève presque des pratiques esclavagistes, enfin qui est vraiment néocolonial, on n'arrive même plus à dire les choses autrement. Donc concrètement, hein, on a vu ça dans un documentaire c'est complément d'enquête, me semble-t-il. Où bah, voilà, il fait travailler des mineurs qui ont 14 ans, ils sont payés 1 euro la journée, ils travaillent sans protection, ou alors c'est eux qui sont obligés de s'acheter leur propre protection, les gants, etc. Mais en fait, bon, on comprend qu'ils ne sont pas vraiment protégés. Et puis le pire du pire, c'est que aux abords de ces plantations de palmeraies, il y a un travail journalistique qui a été fait il y a peu de temps, hein, qui est sorti maintenant, d'une journaliste qui s'appelle Lola Keraron, je pense qu'on peut la citer, qui participe à la revue Silence et qui a enquêté auprès des violences que vivent les paysannes camerounaises qui vivent du coup près de certaines plantations. Concrètement, ce que ces femmes vivent, c'est de la violence coloniale la plus pure, enfin c'est assez horrible. Donc si on rentre dans le détail, c'est quoi ? Donc c'est la Socfin via sa filiale le Socapalm, hein, celle qui gère les plantations, cherche à s'étendre toujours plus et à grignoter des terres. Le problème, c'est que ces terres, bah, ce sont les terres sur lesquelles vivent des paysannes, des camerounaises. Et du coup, elles voient leur territoire se réduire. Donc, elles ont de moins en moins de capacité de produire des choses pour leur propre compte. Elles vont aller, du coup, traverser certaines plantations pour aller glaner les restes de noix, de palmiers qui pourraient rester, qu'elles pourraient revendre pour se faire un peu d'argent et essayer de maintenir une forme de subsistance aussi, de dignité. Et en fait, à chaque passage, presque, dans les plantations, elles font face à des... violences sexistes et sexuelles, à des agressions sexuelles, voire des menaces de mort de la part de... je sais pas comment on pourrait les appeler, ces hommes qui commettent ces violences. Mais en tout cas, voilà, c'est, quotidiennement, elles sont exposées par leur traversée quoi, à des violences sexuelles extrêmement graves et à des menaces de mort... très concrète quoi. Donc c'est ça aussi Bolloré en Afrique, son argent il vient de là quoi. Et ça nous semble absolument essentiel de le visibiliser, de l'expliquer, de le faire comprendre aux gens.
Ouais, je crois que c'est hyper important parce qu'effectivement j'ai l'impression qu'on parle de Bolloré depuis qu'il a racheté des médias, mais pas sur ses autres activités. J'ai encore une question peut-être pourquoi Bolloré, c'est pourquoi Bolloré et pas un autre, parce que j'imagine qu'il y a plein de milliardaires qui sont à la tête d'empires similaires, ou peut-être pas en fait.
Et oui, en fait c'est ça qui est bien avec la famille des milliardaires, c'est qu'ils sont nombreux. Voilà, ils sont nombreux, ils sont contents, ils sont amis même, ils sont copains. Un grand copain de Bolloré, c'est Pierre-Édouard Stérin. Et Pierre-Édouard Stérin, il a un super projet, c'est la conquête du pouvoir par l'extrême droite. Tiens donc. Voilà, donc Stérin, hein, c'est un grand copain de Bolloré, et lui, il vient compléter en fait le travail de conquête des imaginaires que fait Bolloré par une sorte de projet, le projet Périclès, bien nommé, une sorte de projet de faire basculer le plus possible de municipales, de mairies, à l'extrême droite d'ici 2026. Et donc, bah, pour ça, il organise des grands galas de charité pour donner de l'argent à plein d'associations respectables, etc. Mmh. Mais en fait, voilà, c'est la même mécanique, c'est le même projet idéologique réactionnaire derrière, et il se donne vraiment à la main. Mais... bon, enfin voilà, cibler ce terrain, ça aurait peut-être été un peu complexe. Hein, Bolloré, il a l'avantage d'être présent absolument partout. Ouais, et puis, ça. On voudrait aussi rappeler que Bolloré, c'est pas une fin en soi, c'est aussi un moyen.
Ben oui, ça, c'est vraiment très important aussi de comprendre ça. C'est que le fait d'avoir, de désigner une sorte de super ennemi, eh ben, du coup, ça permet plein de choses. Ça permet et surtout de fédérer un front commun contre le fascisme, et notamment en dehors du tempo électoral. Et ça, du coup, ça permet de donner une prise, c'est-à-dire que... je pense qu'on est vraiment très nombreux, nombreuses à s'être senties un peu, comment dire, pétrifiées, tétanisées et en ne sachant pas quoi faire pour essayer d'enrayer la montée du fascisme qui, bien évidemment, ne s'est pas joué ces derniers mois et qui est vraiment quelque chose qui est en lame de fond depuis plusieurs dizaines d'années, mais qui, là, vraiment, est en passe de prendre le pouvoir. Et ce que permet le fait de s'atteler à Bolloré, pourquoi pas, c'est le fait de se réunir, d'expérimenter de nouveaux modes d'action contre l'extrême droite et ses soutiens, de renouveler des formes de combat antifasciste, et puis surtout voilà, de redonner du pouvoir d'agir.
Et je terminerai quand même par rappeler que Bolloré a dit « un peu de terreur, ça fait bouger les gens ». Et que ça justifie peut-être aussi qu'on se concentre sur un type aussi ignoble qui a dit un truc aussi dégueulasse.
Ouais, waouh. Bon bah sur ces bons mots, on va faire une petite pause musicale pour s'en remettre. On va s'écouter Cross the Line, qui est le résultat d'une collaboration entre le Dubiosa Collectif et Manu Chao. Bloody, bloody border. Bloody, bloody border.
Jump over fence and climb up any wall. Movement of the people you cannot control. I will walk over desert and swim across the sea. Like a sand through your fingers, I will slip and be free. I walk over mountains, it's colder and colder. There's no way back, I'll try over and over. Nothing can stop me, no fire, no border. I will not obey, I don't listen, no. Bloody, bloody border, sanguinary times. Bloody, bloody border, sanguinary times. Freedom to cross, freedom to pass. Freedom's no crime, so here we cross the line. Bloody, bloody border, sanguinary times. Bloody, bloody border, sanguinary times. Freedom to cross, freedom to pass. Freedom's no crime, so cross the line. Here we cross the line.
Bloody, bloody border. light.
Et on est de retour sur le Zoom Écologie dans notre épisode consacré, notre deuxième épisode consacré à l'écofascisme. Et aujourd'hui, on parle plutôt de capitalisme fossile et de fascisme fossile avec nos deux invités qui viennent nous parler de Desamont Bolloré, la campagne qui est une alliance de plein de collectifs écologistes et qui a fait une semaine d'action, enfin une série d'actions à la fin du mois de janvier. Une de ces actions, elle voulait dénoncer la collusion avec la recherche publique et les intérêts privés de Bolloré. Il y a eu un rassemblement à Montpellier où le CIRAD travaille sur l'amélioration génétique de palmiers à huile, main dans la main, avec la SOCFIN dont on vient de parler. Voilà, ces actions du mois de janvier, elles font suite à d'autres actions qui ont lieu avant déjà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ces quelques jours d'action ?
Eh ben oui, à vrai dire, la mauvaise nouvelle avec Bolloré, c'est qu'il est partout, mais c'est aussi une bonne nouvelle, puisque la résistance est partout également. Pendant ces journées d'action, il y a eu plus de 70 actions, interventions, collages, désarmements et interventions en tout genre qui ont eu lieu de la France à la Belgique.
Okay.
Et surtout, aucun secteur n'a été épargné. Mmh. Ça a permis justement de visibiliser un peu les quatre pattes sur lesquelles repose l'empire du pire. Si on prend l'exemple de Montpellier, Montpellier, c'était, comme tu l'as rappelé, donc, pour visibiliser la collusion entre la SOCFIN, dont on vient de parler, et la recherche publique. Et à vrai dire, les personnes, les employés de la CIRAD, pour la plupart, ne savaient même pas qu'il travaillait donc avec, Bolloré, en un sens, avec le groupe Bolloré. Ce qui a eu lieu, c'est qu'il y a eu des banderoles qui ont été affichées, et notamment des personnes sont allées tracter auprès des employés du CIRAD pour interpeller sur ces collusions. Je pense que c'est important de rappeler que les collusions entre... que la collaboration entre le monde de la recherche publique et les entreprises Bolloré ne s'arrête pas que au CIRAD, mais Bolloré, c'est aussi des collaborations avec notamment l'Université de Nantes, l'Université de Grenoble, le CEA, même le Collège de France, la Sorbonne, mais aussi l'Université de Clermont-Ferrand. C'est un peu partout, quoi.
Ouais, d'accord. Il y a de quoi faire.
Peut-être que je peux laisser la parole à Ambre pour nous parler un petit peu des actions qui ont eu lieu sur le conglomérat médiatique et culturel de Bolloré.
Mais oui, parce que sur le site des relais, relais.com, on lit une information hyper intéressante qui est « il y a toujours un relais près de chez soi ». Et ça, c'est super parce que comme les relais ont été rachetés par Vincent Bolloré via sa filiale Lagardère en 2022, ça fait que chacun a un petit relais près de chez soi à aller viser. Alors, il ne s'agit pas d'aller brûler les relais, évidemment. les pauvres gens qui travaillent dedans, mais il suffit de faire un petit tour dans un relais pour se rendre compte en fait de concrètement qu'est-ce que c'est une entreprise, un média, un point de vente de livres qui bascule à droite. C'est en fait mis en avant des magazines ou périodiques comme Le Journal du Dimanche, racheté par Bolloré en 2023, Valeurs Actuelles, Frontières, qui est un média vraiment d'extrême droite, etc., etc., etc. Et puis Bolloré, on l'oublie aussi, mais c'est aussi de la presse mainstream, People, Paris Match, Voici, enfin... En fait, il a tout, c'est assez terrifiant. Et du coup, cibler la patte média-culture de Bolloré, qui est vraiment titanesque, c'était absolument capital. Et là, les gens se sont permis aussi de faire d'employer des modes d'action assez... peut-être un peu, j'allais dire mignon. Non, c'est pas ça le mot, parce que c'est pas mignon, mais... peu offensif, de l'information, du tractage, de la visibilisation, des banderoles, des collages. Et ça explique qu'il y a eu plein de relais visés. Alors, pas visés n'importe comment, visés grâce à un petit outil qui a fait son apparition dans les mains des gens et des militants et des militantes. C'est un marque-page. Un marque-page anti-Bolloré parce que Bolloré, non seulement il a les relais, mais il a aussi la plus grosse maison d'édition française, le groupe Hachette, qui lui-même a plein de sous-groupes. Et avoir Hachette, bah, c'est en fait avoir la main mise sur tant de livres qu'il est impossible de les dénombrer. et donc ces marque-pages avaient pour objectif de sensibiliser les gens en fait que acheter Hachette, c'est financer Bolloré, et financer Bolloré, c'est financer l'extrême droite. Donc il y a eu une première vague de marque-pages avant les fêtes. Et puis bah, en fait, pendant cette semaine-là, on a appelé les gens à faire ce geste qui est très simple, qu'il y a eu une sorte d'engouement assez viral autour de ces marque-pages, parce que c'est amusant d'aller dans un relais, de mettre son petit marque-page, voire de chourer au passage 2-3 bouquins de Bardella et s'en aller avec le sentiment du devoir accompli. ça, c'est vraiment... Voilà. Et donc, il y a eu des dizaines de milliers de marque-pages qui ont circulé et qui ont été placés dans relais, mais aussi Fnac, Cultura et autres. Et pour terminer sur Hachette, hein, il y a eu des collages, voilà, actions de peintures qui ont été faites sur des locaux appartenant à Hachette dans le sud de Paris. Et Hachette, c'est aussi Fayard. Alors là, je me permets une petite digression informative. Toujours pour illustrer notre propos un peu concrètement, c'est que donc, Fayard, ça appartient à Hachette. Et a été placée à la tête de Fayard une nouvelle directrice d'édition qui s'appelle Lise Bouel, qui a été carrément pistonnée. Quoi. Et Lise Bouel, c'est l'éditrice des fachos. Hein, elle a publié Zemmour, elle a publié De Villiers et elle a publié... Bardella. Donc, le trio d'enfer, voilà. Donc, il y a eu toute cette type d'action un peu individuelle, festive, drôle, un peu virale, autour des relais et des marque-pages. Et puis, peut-être pour terminer, deux choses. Il y a eu à Paris une action de gros collage contre une école de journalisme dont Bolloré a fait l'acquisition avec un autre copain à lui, même deux autres copains je crois, qui est l'école supérieure de journalisme. Et ça c'est quand même... c'est ce qu'on dit depuis le début. Hein, c'est Bolloré quand il rachète, en fait c'est aussi pour avoir une mainmise totale sur une chaîne de production. Donc là pour la chaîne de production de la pensée, de l'opinion, c'est racheter une école de journalisme pour... orienter et placer des journalistes qui seraient, promptes à traiter les sujets avec depuis une perspective réactionnaire de droite ou d'extrême droite. C'est ensuite mettre la main sur des maisons d'édition et du coup toute une série de livres et de collections. C'est mettre la main sur les points de vente de livres. Enfin, voilà, la main mise sur la chaîne est totale et c'est ça qui est véritablement effrayant puisque ça s'apparente à du coup un quasi-monopole. Du coup, ce qui est drôle hein, pour cette école supérieure de journalisme, sinon on n'en parlerait pas trop, c'est que pris de peur, panique par ce collage terrifiant, l'école a fermé pour le reste de la semaine. Donc ça, c'était super, on était contents. Ça a bien fait rager l'extrême droite sur Twitter. Et pour le deuxième point, pour finir, hein, parce que bon, cet empire médiatique culturel, il est vraiment tentaculaire, c'est que du coup, dans Hachette, il y a les éditions scolaires. Et il faut savoir que tous les professeurs, chaque année, reçoivent, dans la période d'avril-mai, tous les livres qu'il faut faire étudier aux élèves, avec quatre exemplaires différents du même livre, et puis que ce soit pour le collège, pour le lycée, etc. Et en fait, bah, ces livres, c'est Hatier, c'est le livre scolaire, et ça, c'est Bolloré. Donc même si Manon Lescaut n'a pas été encore révisionné par, par Vincent Bolloré, en fait, c'est aussi à lui, c'est aussi de l'argent qu'il a, dont il dispose, et puis c'est une autre porte d'entrée vers Bolloré. Et du coup, il y a des syndicats de professeurs et de parents d'élèves qui ont écrit une tribune pour appeler à ce que les professeurs boycottent les livres scolaires estampillés Bolloré.
Et peut-être pour compléter, puisque c'est, il y a également l'aspect culturel est incarné par le fait que Bolloré a de nombreuses salles de spectacle en France, mais aussi en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Donc il y a eu notamment des tags à Bordeaux, par exemple, pour visibiliser la salle de spectacle qui appartient à Bolloré. Bolloré, c'est également, il y a même des festivals qui appartiennent à Bolloré. À vrai dire, même Dailymotion, ça appartient à Bolloré.
Ah, oh, wow.
Ouais. Et juste aussi peut-être pour rappeler que son empire médiatique et culturel, il l'exerce beaucoup en France, mais à vrai dire l'Afrique n'est pas en reste, puisque avec Canal Plus Afrique, il a mis la main sur tout un canal de diffusion et de production de films, et il est en train de poursuivre cet élan-là, puisque là il est en train d'essayer de racheter Multichoice, qui pareil a une place très importante dans la diffusion et la production télévisuelle en Afrique. Okay. Une autre patte de cet empire du pire, qui est vraiment assez moins connue, c'est tout son empire techno-sécuritaire. Alors, qu'est-ce que c'est que son empire techno-sécuritaire ? Ça, c'est incarné par sa filiale Blue System. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans Blue System ? Eh bien, à vrai dire, c'est un peu le royaume du portique. le portique pour vous empêcher de faire pas mal de choses. Pour vous empêcher, par exemple, d'aller prendre un train si jamais vous n'avez pas votre billet. Pour vous empêcher de rentrer dans les transports en commun si jamais vous utilisez des moyens qui ne sont pas financiers. le portique, ça va devenir un peu chaud. Mais ça va quand même... c'est également des barrières de sécurité pour les entreprises. Et ça va jusqu'à ce qu'ils appellent, dans la boîte qui fait ça, Azure, des portes d'immigration avec de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance biométrique, pour contrôler l'immigration.
On n'est pas du tout dans un mauvais film d'anticipation, là. C'est...
tout à fait. Non, mais on voit quand même une certaine cohérence chez Bolloré. Mais c'est également donc dans Blue System, c'est notamment donc si on résume ça un peu, en gros c'est le contrôle des flux de marchandises et de personnes, notamment à travers donc sa filiale IER, où là il y a vraiment tout un pan qui est mis dans la logistique, et notamment par exemple dans la commande vocale. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la commande vocale.
C'est tout à fait. Allez 7. Étage 4, 8.
Prenez 4 colis. Bon, clairement, c'est vraiment un opérateur massif de déshumanisation du travail des ouvriers de la logistique.
Énormément de choses à dire sur ce sujet.
Exactement. Peut-être juste si on peut enfoncer une porte ouverte là-dessus, c'est que bien souvent, l'automatisation de la logistique s'est vendue comme étant pour le bien-être des ouvriers et ouvrières de la logistique. Mais là, dans les 20 dernières années, par exemple, les troubles musculo-squelettiques des personnes qui travaillent dans la logistique ont augmenté de 60%. Donc non, clairement, c'est plutôt pour l'augmentation, l'accélération des flux et pour le profit des entreprises de la logistique qu'il y a cette automatisation qui est faite et à laquelle participe Bolloré. Et également, peut-être pour finir sur un petit bonbon, Bolloré fait également de l'automatisation de la verbalisation sur la voirie, dans les transports en commun. Et donc, il va... promouvoir ces technologies qu'il fait avec Indestadt dans de nombreux salons policiers. Et voilà, ces actions, tout ce pan des industries technosécuritaires de Bolloré ont notamment été visibilisés, que ce soit à Nantes, où il y a eu des jets massifs de peinture, mais également à Besançon, où de jeunes immigrés ont pris la parole pour dénoncer justement ce contrôle des personnes qu'opère Bolloré avec les portes d'immigration, et bien sûr à Vavre, en Belgique, où il y a eu un désarmement malicieux de ceux qui se sont appelés les biches, en disant « Bon, pour une industrie de sécurité, vous n'êtes quand même pas très sécurisés. »
Donc concrètement, destruction d'ordinateurs, de matériel, mise à mort du matériel.
Ok, vous avez un dernier petit point, il vous reste 2 minutes, donc... Allez-y, et vous pouvez faire un petit bilan très rapidement.
Pour finir sur la quatrième patte, de nouveau, de cet empire du pire, il s'agit de, puisque c'est le thème de l'émission, des énergies fossiles et de l'extractivisme, sinon ce serait pas drôle. On parlait un peu des liens avec la recherche publique. Là, de nouveau, ça a été visibilisé à Grenoble, où il y a le CNRS qui collabore avec Blue Solutions dans un labo dédié à l'université de Grenoble, mais aussi à Nantes. Il y a eu une intrusion dans le laboratoire à Grenoble pour dénoncer ça, organisé notamment par l'organisation autonome iséroise de l'Isère, pardon. Voilà, pour dénoncer le fait que des agents publics sont mis au service d'intérêts privés et que ensuite ces intérêts privés, en fait, enfin la manne d'argent accumulée par de cette manière-là, sont mis au service d'outils de propagande islamophobe, sexiste, etc. Voilà, on parlait d'énergie fossile. Bolloré, c'est aussi de la logistique pétrolière. Et ça, ça a été dénoncé à Strasbourg ou à Poitiers. Poitiers, c'était assez marrant. Il y a eu une grande marche festive où voilà, plusieurs centaines de personnes ont goudronné, éplumé une effigie de Vincent Bolloré.
La classe.
Trop bien. Eh ben, merci à toutes les deux, Marcel et Ambre, pour l'interview du jour. C'était vraiment passionnant. Donc, combattre Bolloré, c'est combattre le fascisme. C'est combattre le fascisme fossile en particulier. Un tout petit dernier mot. Pour les prochains rendez-vous, est-ce que vous avez une petite date à nous donner en vraiment 15 secondes?
Mais oui, ben le 24 mai en Bretagne, c'est Levons les voiles pour de vrai. Donc allez s'en prendre à l'île de Bolloré.
Une armada de bateaux va s'élancer sur l'île du Loc.
C'est parti.